Pinto. Bonjour et bienvenue dans le monde aujourd'hui qui vous apporte les derniers développements en Afrique et ailleurs. À la présentation, Nanit Talani. Ce matin, nous revenons sur le Tchad et la France, rupture de l'accord militaire et création d'une commission de retrait. RDC, une maladie non identifiée frappe le sud-ouest, faisant au moins 27 victimes. Cybercriminalité et sabotage. L'OTAN réagit à la menace grandissante de la Russie et de la Chine. En Guinée, les associations de presse exigent la libération du journaliste Habib Marouane Camara, enlevé à Conakry.
On le prend violemment, on le conduit à une destination inconnue, alors qu'il a droit de communication avec la famille, avec les avocats, mais rien de tout cela.
À suivre dans nos dossiers du jour, de même que l'interview de l'ingénieur Ilyas Tanouti sur le rôle clé de l'espace dans le développement de l'Afrique. Pageco, Abidjan signe des contrats d'investissement incluant des projets environnementaux d'envergure. Restez avec nous pour suivre tous les détails dans cette édition. Voici le journal. Le Tchad a créé mercredi une commission spéciale chargée de piloter la dénonciation de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, actant un retrait ordonné des engagements bilatéraux sans précision d'échéance. Le Tchad accueille actuellement un millier de militaires français sur 3 bases. Eric Maniragiza nous en dit plus.
Cette commission, présidée par le ministre des Affaires étrangères, devra notifier officiellement la dénonciation de l'accord de coopération militaire auprès des autorités françaises par voie diplomatique. Selon un arrêté signé par le Premier ministre, l'instance va établir un plan de retrait des engagements bilatéraux et gérer les implications juridiques, sécuritaires et logistiques. Son annonce surprise a pris de court Paris qui en a pris acte dans l'attente d'un dialogue pour la mise en œuvre. L'accord prévoit un délai de résiliation de 6 mois après notification. La dénonciation motivée par une souveraineté nationale met fin à une coopération vieille de plusieurs décennies. Le président tchadien a toutefois assuré que cette rupture ne remet pas en cause les relations diplomatiques avec la France. Le Tchad, dernier pays sahélien abritant des troupes françaises, rejoint ainsi la liste croissante des États exigeant le départ des forces françaises.
Une mystérieuse maladie a fait au moins 27 morts en un peu plus d'un mois dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, d'après les autorités sanitaires. Davantage avec Rosine Munezero.
Un événement de santé publique inconnu, détecté depuis le 24 octobre, a déjà causé la mort de 27 personnes sur un total de 382 personnes touchées, selon l'Institut national de santé publique, dans un bilan datant de mardi soir. Les cas ont été signalés dans la région de Pandi, aux structures sanitaires limitées, situées à quelques 700 km au sud-est de la capitale Kinshasa. Selon les autorités locales, le bilan pourrait toutefois être plus élevé. La société civile et le médecin-chef de la zone de santé de Pandi ont signalé la perte de 67 vies humaines, a déclaré le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba. Appelant la population à ne pas paniquer et à limiter les mouvements, M. Yumba a indiqué qu'une équipe d'épidémiologistes a été envoyée sur place. La maladie, qui provoque fièvre, maux de tête et toux, touche jusqu'ici des personnes de tout âge, y compris des enfants. L'OMS a déclaré travailler avec les autorités congolaises pour comprendre la situation et a également envoyé une équipe sur place pour collecter des échantillons en vue d'analyse en laboratoire.
En Afrique du Sud, 6 corps ont été extraits en 2 jours de la mine abandonnée de Stilfontaine. Des centaines de mineurs clandestins seraient encore sous terre, selon un leader de la communauté locale qui confirme des informations des médias sud-africains. Le point avec Mouamadou Oumfa.
6 corps ont été retrouvés en 2 jours, 4 mercredis et 2 mardis, a détaillé un des porte-parole du township voisin de Kouma, où vivent la plupart de ces mineurs clandestins. Les plus aurifères à l'abandon à 150 km au sud-ouest de Johannesburg, et cernés depuis 4 semaines par les forces de l'ordre sud-africaines, déterminées à déloger les Zamazama, ceux qui essayent en Zoulou, travaillant dans les galeries désertées. Un nombre très incertain d'entre eux demeure sous terre à Stilfontaine. Un membre de la communauté locale a évoqué le chiffre de 4000 au début de l'opération, mais la police a indiqué par la suite qu'il n'était probablement que quelques centaines. « Nous allons les enfumer et ils sortiront », avait lancé Kumuzo Ntsaveni, ministre auprès de la présidence. Les autorités qui les appellent à refaire surface ont circonscrit l'approvisionnement des mineurs au minimum pour les inciter à ressortir. Des milliers d'entre eux, souvent originaires des pays voisins, notamment le Mozambique et le Lesotho, travaillent et vivent dans des conditions difficiles en Afrique du Sud, riches en minerais. Ces Amazama ont une réputation sulfureuse, une partie de la population les associant à une hausse de la criminalité. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a estimé que ces derniers étaient une menace pour l'économie et la sécurité.
Au Nigeria, des hommes armés ont posé des explosifs le long de la route d'Onsanda-Ogaoso dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Ils ont tué 12 voyageurs et ont blessé 6 autres, ont déclaré ce mercredi un porte-parole militaire et des témoins. L'armée a déployé une équipe de déminage pour neutraliser les explosifs restants et travaille avec les autorités locales pour enquêter et arrêter les responsables. L'UNICEF a lancé un appel aux dons de 9,9 milliards de dollars dans le but de répondre aux besoins humanitaires des enfants victimes de conflits en 2025. Les fonds serviront à fournir des soins de santé, de l'eau potable, de l'éducation et à lutter contre la malnutrition. L'agence estime que 213 millions d'enfants dans 146 pays auront besoin d'aide, avec un financement ciblant 109 millions d'enfants. Les pays prioritaires sont le Congo-Kinshasa, le Soudan, l'Afghanistan, le Liban et les territoires palestiniens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pays de l'OTAN ont décidé de nouvelles mesures pour répondre à ce qu'ils qualifient d'attaques hybrides menées par la Russie et la Chine sur leur territoire. C'est ce qui ressort d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères mardi et mercredi à Bruxelles. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont promis la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie face à une campagne d'action hostile de la Russie qui s'intensifie, selon le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte. Ce que nous voyons, ce sont la Russie et la Chine qui tentent de déstabiliser les nations de l'OTAN à travers des actes de sabotage ou de cybercriminalité, affirme Mark Rutte. D'après le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský, au moins 500 incidents douteux ont eu lieu en Europe ces derniers jours, et près d'une centaine d'entre eux ont pu être attribués à la Russie, citant des attaques hybrides, sabotage, espionnage ou opérations d'influence. Deux câbles sous-marins de télécommunications ont été sectionnés mi-novembre en mer Baltique dans les eaux territoriales suédoises. Les soupçons se sont très vite dirigés vers un navire chinois, le Yiping 3, qui, selon des sites de suivi du trafic maritime, est passé au-dessus des câbles au moment où ils ont été sectionnés. Face à cette recrudescence, l'OTAN dit vouloir renforcer son arsenal.
Ici, aux États-Unis, la Cour suprême à majorité conservatrice est apparue mercredi divisée sur l'accès des mineurs aux traitements médicaux pour changer de genre. La Cour semble encline à laisser chaque État décider, soulignant la difficulté d'une décision en la matière. La décision finale est attendue d'ici fin juin 2025. Les opposants à la loi affirment qu'elle est discriminatoire et prive les jeunes transgenres d'accès à des soins médicaux nécessaires. Les partisans dans l'État du Tennessee la défendent comme une mesure pour protéger les enfants contre des interventions médicales irréversibles. La défense civile de Gaza rapporte que 20 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées dans une frappe israélienne hier sur des tentes de déplacés à Al-Mawassi, au sud de Gaza. L'attaque a également causé de nombreux blessés et un incendie majeur. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des responsables du Hamas impliqués dans des activités terroristes. Dans un rapport publié hier, Amnesty International accuse Israël de génocide contre les Palestiniens à Gaza, citant des attaques délibérées contre des civils, l'utilisation d'armes explosives et un blocus humanitaire.
L'organisation estime que ces actions remplissent les critères de génocide de la Convention de l'ONU. Les partis d'opposition en Corée du Sud prévoient de soumettre une motion de destitution contre le président Yoon Suk Yeol ce samedi, après sa tentative échouée d'imposer la loi martiale. Le Parti démocrate a annoncé sa demande de vote, tandis que le parti au pouvoir s'y oppose. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Alors que les relations internationales et les investissements mondiaux se redéfinissent, voici les principaux développements économiques qui marquent la scène africaine et mondiale aujourd'hui. Cette page économique est signée Firmin Max Kouyaweda.
En visite en Angola, le président américain Joe Biden a affirmé que le couloir de Lobito, investissement emblématique de son mandat, était une révolution. Ce grand axe ferroviaire et commercial est censé à terme traverser le continent d'est en ouest. Ce couloir est destiné d'abord à faciliter l'exportation de minerais stratégiques de la République démocratique du Congo et de Zambie depuis le port angolais de Lobito. En Côte d'Ivoire, près de 4000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement ont été signés au cours de la première édition du CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques. À noter, un partenariat a aussi été conclu entre le géant énergétique italien Eni et le ministère ivoirien des eaux et forêts pour un projet de restauration de 14 forêts ivoiriennes couvrant 155 000 hectares dans les régions des Lagunes et de la Comoé. Et enfin, le président élu Donald Trump a nommé comme conseiller au commerce et à l'industrie Peter Navarro, qui occupait des fonctions similaires lors de son premier mandat. Ce fidèle du futur président a purgé 4 mois de prison pour entrave au pouvoir d'enquête du Congrès après l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.
Des coupes continentales en Afrique aux blessures de stars aux USA. Voici les dernières nouvelles des compétitions qui font vibrer les fans à travers le monde et que nous apporte Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
On connaît les affiches des demi-finales de la CAN féminine de handball qui se joue à Kinshasa en RDC.
Oui, les quarts de finale de cette CAN féminine de handball qui se joue à Kinshasa ont livré leur verdict hier. La Tunisie a été la première nation à se qualifier pour les demi-finales de cette CAN féminine grâce à sa victoire face au Congo 28-24. En demi-finale, les Tunisiennes feront face aux Sénégalaises qui ont battu le Cameroun 25-18. L'Angola qui a pulvérisé l'Algérie 34-15 va affronter en demi l'Égypte qui a battu la RDC 23-22. Les demi-finales se disputent demain vendredi 6 décembre et la finale ce samedi 7 décembre.
Tirage au sort ce jeudi du Mondial des clubs.
Les premiers contours de cette controversée Coupe du Monde des clubs seront dévoilés lors du tirage au sort aujourd'hui à Miami, ici aux États-Unis. L'idée de cette épreuve quadriennale qui vient s'ajouter à un calendrier déjà surchargé est portée depuis plusieurs années par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. La compétition aura lieu du 15 juillet au 13 juillet 2025. Le plateau est désormais complet pour le tirage au sort depuis le sacre des Brésiliens de Botafogo en Copa Libertadores samedi et comprend 32 équipes, 12 européennes, 6 sud-américaines, 4 africaines, asiatiques et nord-américaines, une venue d'Océanie et l'Inter Miami du pays hôte. L'Afrique sera représentée à ce mondial des clubs par Al Ahly d'Égypte, le Wydad Casablanca du Maroc, l'Espérance sportive de Tunis, de la Tunisie donc et le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud.
Pour terminer, Yakuba, ici en NBA, les Suns perdent Kevin Durant pour au moins une semaine.
L'attaquant des Phoenix Suns souffre d'une entorse à la cheville gauche. Kevin Durant s'est blessé dans le deuxième quart-temps lors de la victoire 104-93 contre San Antonio mardi en marchant sur le pied de Julian Champagny, un joueur des Spurs. Selon ESPN et l'Arizona Republic, Durant manquera les matchs de la Nouvelle-Orléans, de Miami et d'Orlando avant la visite médicale de la semaine prochaine. Durant, double champion de la NBA, affiche une moyenne de 25,8 points, 6,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour les Suns cette saison. Il a été absent pendant 11 jours le mois dernier en raison d'une élongation du mollet gauche. Avec 12 victoires et 8 défaites, les Suns sont 6e de la conférence Ouest. Le meneur de jeu américain âgé de 30 36 ans, a été le joueur le plus utilisé de la NBA en 2014 et a été 14 fois All-Star et 2 fois MVP des finales et du match des étoiles de la NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie pour cette deuxième partie de notre journal qui vous plonge dans des analyses et des entretiens exclusifs. Le président américain Joe Biden a terminé hier une visite de 3 jours en Angola axée sur l'investissement pour la construction du corridor de Lobito, une voie ferrée qui devrait servir à l'évacuation des minerais stratégiques comme le cuivre et le cobalt en provenance de la RDC et de la Zambie. En plus de João Lourenço, président angolais, Joe Biden y a rencontré ses homologues congolais, zambiens et tanzaniens. Mais quels sont les enjeux de ce corridor? Eddie Isango a joint à Lubumbashi le professeur des relations internationales, Germain Ngoiti-Banda.
L'idée du corridor de Lobito rentre dans ce qu'on appelle le partenariat pour l'infrastructure et le projet d'investissement global initié pratiquement depuis 2023, après la réunion de G20 à Atlanta. Le corridor de Lobito, c'est un point de mire, une priorité dans ce programme-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet global d'infrastructure et d'investissement est porté par, d'une part, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Alors, en sous-entendu, il s'agit pratiquement d'une stratégie montée par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en vue de contrecarrer, il faut le dire, la percée, l'influence de la Chine, en Afrique, qui a aussi lancé son projet-là de la route de soie. C'est aussi une manière pour l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique de reprendre le pied en Afrique à travers ce qu'on peut appeler la politique des infrastructures, qui semble être un point faible dans la relation classique entre l'Europe et l'Afrique.
Dans tout cela, qui gagne en revanche la RDC et la Zambie, mais aussi l'Angola, les pays concernés concrètement?
Vous savez que l'Afrique, depuis longtemps, a des problèmes de connectivité. D'abord, l'Afrique a beaucoup de pays enclavés. Alors, lorsqu'on essaie de mettre ensemble ces trois pays-là, la RDC, la partie nord de la Zambie et l'Angola, c'est pour faciliter la circulation de marchandises, lesquelles marchandises peuvent facilement accéder au marché mondial.
Est-ce que cela n'hypothèque pas le projet de construction d'un port en eau profonde pour la RDC, à Banana par exemple, parce que tout passe par Lobito maintenant en Angola?
Je pense que on peut être attentif pour capitaliser ce que je peux appeler des opportunités. Évidemment, si on construit le port en eau profonde, là, ce sera à l'ouest, mais un peu au nord. Ça peut couvrir ce que je peux appeler le pôle de développement dans le puissant et Kinshasa. Mais lorsque nous considérons ce qui se passe aussi dans le sud de la RDC, étant entendu que le sud, dans ce qu'on peut appeler la crête lacustre, qui va de Lualaba jusqu'à l'Aléo Katanga, cet espace ici est gorgé de beaucoup de minerais. Et vous savez vous-même que le transport de minerais passerait mieux par le rail, le bateau et le fer. Je crois que n'est pas tellement contre.
Mais pourquoi la RDC n'a pas négocié? Parce que ce sont des investissements, la construction par exemple d'un chemin de fer qui évacuerait et la construction de ces ports justement.
Ah oui, en fait, comme enseignant, comme chercheur, surtout observateur, il y a beaucoup de défis à faire. La mise en œuvre d'une politique nationale effective pour désenclaver notre pays.
Comment ces corridors pourraient être réalisés dans la mesure où plus de 90% des mines sont entre les mains des Chinois en RDC?
Ça, c'est vraiment une question stratégique que vous soulevez. Avec la Chine aussi a un corridor à l'est, non? Ce qu'on appelle les Tazara. C'est une ligne de fer là qui tend la Zambie vers la Tanzanie. Hein. C'est la Chine qui a financé cette infrastructure là. Une manière aussi de gérer, sinon de permettre l'évacuation de matières premières.
C'était Germain Ngoiti-Banda, professeur des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC.
Restez branchés sur VOA Afrique à Kisangani sur 97.7 FM.
En Guinée, le journaliste Habib Marouane Camara a été enlevé mardi soir à Conakry, selon des associations de presse guinéennes. Le journaliste administrateur du site d'information Le Révélateur 224 est connu pour ses critiques envers le pouvoir de Conakry. Le syndicat des professionnels de la presse en Guinée a publié une déclaration appelant à sa libération. Tiernomo Doumba a joint au téléphone le secrétaire général de l'organisation syndicale, Sekou Djamal Pendessa.
Des gendarmes ont bloqué son véhicule à l'aide d'un pick-up et puis ils ont cassé le pare-brise pour l'en extirper des forces. Il n'a reçu ni convocation ni mandat. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait, son kidnapping.
Et qu'est-ce qui vous dit qu'il a été enlevé par des gendarmes?
Les témoins sont dans une certaine unanimité, c'est qu'il a été arrêté par des éléments de la gendarmerie. C'est le drame. On le prend violemment, on le conduit à une destination inconnue, alors qu'il a droit de communication avec sa famille, avec ses avocats. Mais rien de tout cela. Cela veut dire qu'il est en dehors du circuit judiciaire légalement prévu par nos textes de loi. Nous avons interpellé le ministre de la Justice, qui est encore le ministre des Droits de l'Homme, pour lui dire que les droits de Marouane doivent être respectés.
Sekou Pendessa, le syndicat des journalistes que vous dirigez a rencontré le premier ministre Amadou Ouriba mercredi. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Le premier ministre nous a dit que lui-même il va essayer de s'informer et s'il s'avère que Marouane se trouve entre les mains des services de l'État, il nous garantit que ses droits seront respectés et que son dossier sera traité conformément à la loi. C'est l'assurance qu'il a donnée à la délégation du syndicat que j'ai conduite et nous lui avons exprimé toutes nos inquiétudes et celles de la famille de Habib Marouane.
Êtes-vous inquiet aujourd'hui d'exercer librement votre métier en Guinée?
Évidemment, tout le monde a peur aujourd'hui. Et je vous le signale depuis hier, je reçois des appels, il y a des confrères qui me disent qu'ils veulent raccrocher le micro. Ils disent honnêtement, nous on veut quitter ce métier parce que exercer aujourd'hui en Guinée c'est un danger. Et on a vécu beaucoup de choses, mais ce kidnapping a terrorisé complètement la corporation. C'est pourquoi nous tentons de rassurer. Nous avons prévu d'importantes rencontres. Si le calendrier se maintient, c'est un processus qui doit, si tout va bien, aboutir à quelque chose de concluant pour la presse guinéenne.
Sekou Djamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse en Guinée.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Utiliser la technologie spatiale pour contribuer à une société plus juste et équitable, ainsi qu'au développement durable de l'Afrique, c'est la vision d'Ilias Tanuti, ingénieur en système de mission spatiale, reconnu parmi le top 10 des Africains de moins de 30 ans dans l'industrie spatiale en 2020. Comment le secteur spatial peut-il contribuer au développement des pays africains? Ilias Tanuti explique dans cet entretien avec Alexandrine Holognon.
En Afrique, à ce moment-là, on fait face à deux défis très grands. Bon, il y a le changement climatique, mais on a aussi un défi d'une croissance très rapide de la population. Et ces deux problématiques ont besoin d'une gestion durable des ressources critiques comme celle de l'eau, des terres, des infrastructures, des minéraux, etc. Et pour pouvoir faire cette gestion, on a besoin de prendre des décisions basées sur des données fiables. Et les satellites, c'est vraiment le seul moyen avec lequel on peut mesurer et surveiller toutes ces différentes variables avec de l'efficacité, de la précision à l'échelle d'un continent ou du monde en entier. Donc ça nous permet de comprendre l'état actuel de nos ressources et de prévoir les impacts futurs et ce qui favorise vraiment une meilleure planification et gestion de toutes ces ressources-là.
Comment ces données sont-elles collectées dans un premier temps et comment sont-elles appliquées au secteur que vous venez d'évoquer, que ce soit sur le plan environnemental ou de l'agriculture?
Imaginez un peu un satellite qui porte une caméra, c'est des caméras un peu plus spéciales, on va avoir des caméras qui vont pas seulement voir les couleurs que nos propres yeux peuvent voir, mais aussi d'autres couleurs, on va dire. Il y a aussi des caméras à l'infrarouge, il y a des caméras qui sont plutôt des radars. Et tous ces instruments-là, ils vont prendre des photos, on va dire. Et ces photos-là, au final, c'est des données. Et ces données vont être renvoyées à la Terre. Et là, dans les différents centres, on va analyser toutes ces données-là. On va extraire des informations qui sont importantes pour la gestion de tous ces ressources-là. Par exemple, on va prendre des données de l'infrarouge thermique et on va faire quelques analyses où on les rendra des données de température de la superficie terrestre avec laquelle on va pouvoir comprendre si, par exemple, dans une ville, il y a une partie de la ville qui a des températures beaucoup plus hautes qu'une autre et il faudrait peut-être construire un parc là.
Est-ce que vous avez des anecdotes ou des exemples précis où une technologie spatiale a eu un impact significatif dans un pays africain?
Au Kenya, il y a ce programme qui s'appelle SatMed, donc Satellite Medicine, et ce programme a permis d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les zones rurales au Kenya en utilisant la connectivité par satellite. Donc ça a permis aux professionnels de la santé d'accéder à des formations à distance, de consulter des experts internationaux et d'utiliser des dossiers médicaux électroniques. Donc ça a vraiment transformé la qualité des soins dans ces zones isolées où il n'y a pas d'infrastructure de sol, où vraiment la connectivité par satellite est la seule option.
Ilias Tanuti, ingénieur en système de mission spatiale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président américain Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden en début de semaine, mettant fin à une saga politique qui a divisé les législateurs américains pendant des années. Comme le rapporte la correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, le processus de grâce à la fin des administrations présidentielles a toujours été controversé. Le récit est de Michel Joseph.
Each of us is equal before the law.
À quelques semaines de la fin de son mandat, le président Joe Biden a gracié son fils Hunter. La Maison-Blanche a défendu lundi la décision d'innocenter le cadet des enfants Biden des condamnations pour fraude fiscale et usage d'armes à feu. Karine Jean-Pierre est l'attachée de presse de la Maison-Blanche.
Il s'est débattu avec cette question parce qu'il croit au système judiciaire. Il croit aussi que la politique a infecté le processus et a conduit à une erreur judiciaire.
Au début de l'année, Joe Biden s'est engagé à ne pas accorder de grâce, affirmant que personne aux États-Unis n'était au-dessus de la loi.
J'ai dit que je respectais la décision du jury. C'est ce que je ferai et je ne le gracierai pas.
Le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a refusé mardi de répondre à de multiples questions sur la grâce. Les républicains de la Chambre des représentants ont enquêté sur les transactions de Hunter Biden à l'étranger, arguant que Joe Biden devrait être mis en accusation pour en avoir bénéficié, bien qu'aucune preuve convaincante n'ait jamais été apportée à ce sujet. L'avocat de Hunter Biden, Mark Geragos, affirme que la grâce était nécessaire.
Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait prétendre honnêtement qu'il ne s'agissait pas d'une poursuite inspirée par des considérations politiques.
M. Biden n'est pas le premier président américain à gracier un membre de sa famille. Claire Finkelstein, analyste juridique et professeure de droit à l'Université de Pennsylvanie, a déclaré que ce geste était troublant.
Il est tout à fait regrettable qu'il n'ait pas pu donner l'exemple en laissant la justice suivre son cours et qu'il se soit senti obligé de prendre cette mesure hautement politisée avec les grâces, parce que cela nous envoie dans un gouffre ou au moins renforce une voix en ce qui concerne l'utilisation du pouvoir de grâce de cette manière.
Au cours de son premier mandat, Donald Trump a accordé la clémence à 237 personnes, dont un grand nombre avaient été condamnées pour fraude, corruption publique. Beaucoup d'entre elles ont contourné le processus traditionnel de demande de grâce. De nouveau, Claire Finkelstein de l'Université de Pennsylvanie.
N'oublions pas que Donald Trump a déclaré dans le passé qu'il avait le droit de s'auto-pardonner, ce qui est le summum des pardons politisés.
Donald Trump s'est également engagé à gracier les personnes reconnues coupables d'avoir attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 dans le but de renverser les résultats de l'élection 2020.
Nous voici au terme de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous continuerons à vous apporter des analyses approfondies et des informations cruciales qui dominent l'actualité. Restez à l'écoute pour plus de détails et d'analyses dans nos prochaines éditions. À la présentation, Nanit Talani, à la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida, à la technique, Kelvin Fowler. Passez une excellente journée. À bientôt.